L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Ouadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou, l'ex-ministre algérien du Trésor, M. Ali Benouari, actuellement PDG d'Ecofinance à Genève et président de la Fondation Luc Montagnier. Avec lui, nous allons décortiquer les enjeux, les obstacles et les défis de l'instauration d'une monnaie commune des BRICS. Nous nous pencherons en particulier sur sa proposition d'utiliser les DTS pour droits de tirage spéciaux du FMI, qui sera l'objet de son séminaire à l'École des hautes études économiques à l'invitation du comité des experts des BRICS pour la Russie. A tout de suite sur les ondes de Radio Spoutnik Afrique. Monsieur Ali Benouari, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir parmi nous.
C'est moi qui vous remercie. Tout l'honneur est pour moi.
Bien. Alors, lors du dernier sommet des BRICS en Afrique du Sud l'année dernière, c'était le mois d'août de l'année dernière, il était prévu de discuter de l'adoption d'une monnaie commune pour cette organisation, mais cette question a été renvoyée à plus tard au vu de sa complexité. Voilà la raison pour laquelle ce qu'ont dit les dirigeants des pays membres. Alors, ma première question, pour bien planter le décor, comme on dit, avant d'aller dans le fond des choses, en quoi réside cette complexité? Pourquoi c'est très difficile d'établir une monnaie pour les BRICS?
Oui, d'abord, les questions monétaires ou les questions qui tournent autour de la monnaie sont des plus complexes. Tout le monde le sait, demandez aux pays d'Afrique de l'Ouest ce qu'ils pensent, comment ils pensent sortir du franc CFA. Mmh. C'est une question extrêmement épineuse parce qu'elle touche beaucoup de domaines. La souveraineté des États, la gouvernance, le rôle qu'on assigne à la monnaie, et surtout si on est à plusieurs à vouloir adopter une monnaie. Déjà pour un pays, c'est difficile. Alors pour plusieurs pays, c'est encore plus difficile. L'Europe a mis des décennies avant d'arriver à l'euro, et encore, il y a des gens qui veulent en sortir, parce que l'euro n'a pas atteint les objectifs attendus. Donc toujours en raison de cette question de souveraineté. Donc, s'agissant des BRICS, c'est encore plus compliqué parce que ils n'ont pas, ce n'est pas un ensemble régional qui a d'abord recherché l'intégration. C'est pas un ensemble intégré. Les membres du BRICS sont répartis sur trois continents, chacun ayant ses problèmes spécifiques, économiques, politiques, etc. Néanmoins, il y a une volonté de converger, au moins politiquement. Mais ça, c'est, je dirais, le plus facile. On le voit aujourd'hui, le groupe des BRICS fait bloc s'agissant des grandes questions internationales qui touchent à l'ordre multipolaire que les BRICS veulent instituer. Mais s'agissant de la monnaie, c'est trop concret. C'est trop concret et ça touche à la définition même de la monnaie. D'accord. Qu'est-ce qu'une monnaie, si vous posez la question aux
gens? Allez-y.
Est-ce que c'est quelque chose avec laquelle on paye? C'est un instrument de paiement? Ou est-ce que c'est un instrument aussi de réserve qu'on a envie de garder dans sa poche, dans son compte en banque? Ou est-ce que c'est un instrument pour facturer? Oui, ces trois
facturer
aspects.
Facturer et payer.
Facturer, donc on facture, donc c'est l'unité c'est la fonction d'unité de compte. On paye, c'est la fonction d'instrument de paiement. Et puis, si tout va bien, on a envie de garder cette monnaie et ça devient un instrument de réserve. C'est, la difficulté, elle vient de là. Parce que les BRICS ne sont pas un ensemble intégré. Et donc, je conçois parfaitement qu'il y ait des difficultés à définir ce que doit être cette monnaie. Pour autant, est-ce qu'on a besoin d'une monnaie commune? Je dirais, à la limite, la question primordiale, c'est celle-là. Pourquoi a-t-on besoin d'une monnaie commune? Vous voyez, on peut très bien converger sur un plan politique, coopérer pour l'avènement d'un nouvel ordre international, sur le plan politique, sur le plan économique aussi, vouloir réformer la Banque mondiale, le FMI. On peut faire beaucoup de choses sans forcément penser à créer une monnaie commune. Et c'est là où on arrive au vif du sujet. Si on attend de parler de la monnaie commune, c'est parce qu'on veut sortir du dollar.
Exactement.
C'est une définition négative, si vous voulez, de cette monnaie commune. Elle est vue comme le moyen de garantir une sortie, ce qu'on appelle la dédollarisation. Pourquoi ? Parce que la dollarisation étrangle le monde.
Peut-être même, c'est pas forcément une sortie, parce qu'il y a des gens des BRICS qui disent le BRICS, ou même la monnaie, ou même l'organisation économique, elle n'est pas faite contre les pays occidentaux. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont choisi de garder le forum du G20 pour la discussion. Donc, mais au moins, limiter la domination du dollar et faire en sorte que le dollar ne soit pas la seule monnaie dominante dans l'économie.
Oui, on revient au sujet. Est-ce qu'on a besoin d'une monnaie commune ? Est-ce qu'elle est nécessaire ? Bien sûr, ceux qui y ont pensé ont pensé que c'était le moyen le plus simple de s'éloigner du dollar. Pourquoi ? Parce que le dollar est la principale monnaie d'échange, de paiement, de facturation et de réserve au monde, de loin. 60% à peu près, des échanges mondiaux se font en dollars. C'est en train de baisser depuis l'avènement de l'euro. C'est encore en train de baisser en raison des échanges en monnaie nationale que les BRIC favorisent. Parlons justement de ces échanges en monnaie nationale. Comme on a eu des difficultés à concevoir cette monnaie commune, on a paré au plus pressé, au plus simple, on a été vers le plus simple, c'est-à-dire se facturer dans sa monnaie. C'est-à-dire les membres du BRICS se vendent et s'achètent dans leur monnaie respective. Voilà. Donc ça, c'est une première alternative devant la difficulté à créer cette monnaie commune. Les membres du BRICS ont dit qu'à cela ne tienne, en attendant la création de cette monnaie commune, nous allons échanger dans nos propres monnaies. Bon, nous sommes dans cette phase-là. Après, il y a un autre problème qui s'est posé, c'est contourner le SWIFT. Parce que le système de paiement aujourd'hui, c'est le SWIFT. Et aussi, pourquoi la monnaie commune, pourquoi la dédollarisation, c'est à cause des sanctions.
D'accord.
Si le dollar était une monnaie neutre, je pense que les gens n'auraient pas, les groupes des BRICS n'auraient pas pensé à dédollariser ni à penser à créer une monnaie commune. C'est précisément les sanctions. Et les sanctions, c'est implique à la fois l'usage du dollar et le système de paiement SWIFT, qui permet de tracer tous les paiements. Les Américains,
ils ont mis en place un réseau d'espionnage, mais vraiment...
À la base, c'était un système d'information, de messagerie. Ouais. De messagerie pour payer rapidement, pour...
C'est à se demander pourquoi ils ont commis cette erreur de sortir la Russie, de sortir l'Iran du SWIFT, alors qu'avant, ils pouvaient savoir ce que ces pays faisaient. Maintenant, ce n'est plus le cas.
Oui, moi, je pense que leur logique, la logique des pays occidentaux, est une logique, je dirais, simpliste. Ils ont pris l'habitude de dominer, ils ont pris l'habitude de sous-estimer les autres, les non-occidentaux. Donc, ils se sont dit, en les coupant du SWIFT, en les sanctionnant, on va les étrangler. Et ils vont abdiquer.
D'accord.
Voilà, l'erreur, c'est là, elle est simpliste. En face, c'est ça, les BRICS, on s'unit, on s'organise pour résister à ces pressions et pour cela, on va chercher à créer un système alternatif au SWIFT et une monnaie alternative au dollar.
On y reviendra. Bien, alors maintenant, après avoir... parce que c'est une question qui non seulement concerne les pays des BRICS, et ceux qui viennent d'adhérer, et ceux qui probablement vont adhérer lors du sommet de Kazan cette année sous présidence russe, mais c'est aussi une question qui concerne beaucoup les pays africains qui veulent aussi sortir, c'est ce que vous avez dit tout au début, donc il est très important, comme je pense, moi j'estime, je parle sous votre contrôle, que le principe est le même, sortir du franc CFA, faire une monnaie commune, et ainsi de suite, le principe est le même.
Oui, oui.
D'accord. Bien, alors la deuxième question, Sergueï Glazyev, qui est membre du Conseil national financier de la Banque centrale russe et ministre chargé de l'intégration et de la macroéconomie de la Commission économique eurasienne, est connu pour ses réflexions approfondies sur l'idée d'une monnaie commune au BRICS. Donc, j'aimerais bien vous soumettre certaines de ces idées et vous demander votre avis si vous êtes d'accord avec cette analyse. Alors, il a parlé de cette monnaie en ces termes. Je le cite, « Si une nation réserve une partie de ses ressources naturelles pour soutenir le nouveau système économique, son poids respectif dans le panier de devises de la nouvelle unité monétaire augmentera en conséquence, ce qui permettra à cette nation de disposer de réserves monétaires et d'une capacité de crédit plus importante. Et en outre, des lignes de swap bilatérales avec les pays partenaires commerciaux leur fourniraient un financement adéquat pour les co-investissements et le financement de leurs échanges commerciaux. » Alors moi, ma question, qu'en pensez-vous et êtes-vous d'accord avec cette analyse?
Il y a beaucoup de questions dans une seule.
D'accord.
Est-ce que M. Glassiev veut rattacher la monnaie commune à un basket de monnaie dans lequel il y aurait des matières premières, de l'or, de... Je ne sais pas.
Ici, il propose donc un poids des ressources naturelles, c'est ça, et puis un panier de devises, d'une nouvelle unité monétaire.
Oui, l'idée est bonne. J'ai beaucoup lu sur ce que le ministre Gradziev a écrit, mais il ne faut pas prendre ses propositions comme une panacée. Lui-même réfléchit à haute voix, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'il réfléchit, qu'il parle, que le débat avance, les idées progressent. Donc celle-là est une idée parmi d'autres. Ce qu'elle a d'intéressant, c'est la notion de basket, de panier. Panier de quelque chose. Aujourd'hui, ça veut dire que déjà quand on parle de panier, on parle d'unité de compte. Parce que vous n'allez pas payer avec un panier, vous allez payer avec une monnaie dans la valeur est défini par un panier. Donc, quand on parle de cette valeur, on parle d'unité de compte. Donc, c'est-à-dire que la valeur de cette monnaie sera assise sur le poids des matières premières, le poids des devises, le poids de l'or, que l'on veut bien mettre dedans selon des pourcentages déterminés. Voilà. Donc l'idée du panier de quelque chose est intéressante. Quant à mettre un mélange de matières premières, de devises, etc., évidemment, il faut que cela arrange les pays qui sont concernés. Quel pourcentage ? Il faut éviter que la monnaie ne soit trop inflationniste. Si vous mettez, par exemple, du pétrole, si vous l'indexez sur le pétrole, en admettant que vous mettiez, comme matière première, du pétrole dedans, bien, ça va arranger les pays exportateurs de pétrole. Mais les pays importateurs de pétrole, ça ne les arrange pas. Parce que cette monnaie aura tendance à refléter le prix du pétrole. Si le prix du pétrole augmente, la valeur de la monnaie augmente. Ça pénalise les exportateurs. Si le prix du pétrole augmente, la valeur de la monnaie augmente, donc ça fait une réévaluation qui, évidemment, facilite les importations, elle les rend moins chères, mais qui décourage les exportations. À l'inverse, si le prix du pétrole baisse, c'est l'inverse. Donc, ça rend trop dépendant du pétrole. Et les pays qui n'ont pas de pétrole, les pays qui ont d'autres ressources, c'est très compliqué. Le dosage des différentes composantes est déjà en lui-même très, très, très compliqué. Et puis, cela revient à la question, on peut parler aussi du franc CFA. Est-ce qu'on veut la stabilité? Est-ce qu'on veut que cette monnaie soit stable? Ou est-ce qu'on veut qu'elle soit forte, ou est-ce qu'on veut qu'elle soit faible? Est-ce qu'on veut pouvoir contrôler son prix, ou est-ce qu'on veut que ce soit le marché qui contrôle son prix à travers le prix des composantes, pétrole, or, etc. Tout dépend donc, c'est pour ça que la monnaie est une question de souveraineté. Un pays souverain peut décider de donner à sa monnaie une valeur qui arrange sa politique économique du moment. S'il veut développer ses exportations, il va avoir tendance, il va préférer une monnaie faible. S'il veut au contraire lutter contre l'inflation, il va avoir préféré une monnaie forte. Et d'une manière générale, une monnaie stable, c'est connu, c'est préférable. Mais enfin, il ne faut pas être naïf. Tous les pays contrôlent directement ou indirectement leur monnaie. Alors, si c'est une monnaie à plusieurs, il sera difficile pour un pays donné de la contrôler. Et encore moins si les composantes, si ce qu'elle contient, si le basket lui-même contient des éléments qui sont fixés, dont le prix est fixé par le marché. Vous voyez déjà à quel point c'est compliqué.
Bien, d'accord. Alors, pour la troisième question, depuis quelques semaines, le contexte des sanctions et de la sortie de la Russie et de d'autres pays qui est considéré comme ennemi de l'Occident du système SWIFT, donc il y a des experts économiques et financiers russes qui ont émis l'idée d'utiliser les crypto-monnaies et la technologie de la blockchain pour résoudre ou pour contourner les obstacles qui se dressent devant la mise en place d'une monnaie commune des BRICS. Alors, qu'en pensez-vous ? Et cette piste de réflexion est-elle prometteuse à court et moyen terme ?
Oui, l'idée de la blockchain, de recourir à la blockchain, est intéressante parce que la blockchain est basé sur des algorithmes qui favorisent l'anonymat et sur des données informatiques numérisées, protégées par des algorithmes, des codes, c'est chiffré. Personne ne peut rentrer là-dedans. Donc ça garantit l'anonymat, la sécurité et l'instantanéité des paiements. Donc l'idée est intéressante en elle-même. Là où ça devient un peu là où il faut nuancer, c'est quand on parle de monnaie numérique. Le système de paiement qui est appelé à remplacer le SWIFT, genre le BSF russe ou le CIPC chinois, qui existe, les Russes et les Chinois sont en train de voir comment les interconnecter pour faire un système de paiement global, d'où l'idée de BRICS Bridge, par exemple, qui permet de coordonner, de démettre des monnaies numériques de banques centrales qui elles-mêmes sont connectées, interconnectées à travers cette plateforme numérique et de règlement. C'est un peu complexe, mais enfin, la piste est très intéressante, qui permet de résoudre en fait deux problèmes. Le premier, c'est contourner le SWIFT en créant un système de paiement et de messagerie souverain, indépendant. Les Américains ou les Européens, qui ne sont pas membres de ce réseau, ne pourront pas tracer les mouvements de fonds. Et donc, ne pourront ni bloquer, ni sanctionner, ni même s'informer, de savoir qui paye qui achète quoi à qui. Les monnaies numériques aussi sont adossées à la blockchain. Maintenant, il y a deux catégories. Les monnaies numériques de banque centrale, ou une monnaie numérique, une cryptocurrency comme le Bitcoin ou l'Ethereum ou le XRP et autres, qui sont des monnaies privées. Des monnaies privées qui n'obéissent pas à des États. Ce n'est pas les États qui les créent, ce sont des associations, ce sont des investisseurs qui les créent et qui les utilisent et ça devient des monnaies un peu virtuelles. Crypto, c'est pour ça qu'on dit crypto-monnaie, c'est des monnaies virtuelles. Mais les monnaies de banque centrale, numériques de banque centrale, elles sont crypto dans la mesure où elles sont cryptées, dans la mesure où elles sont anonymes, elles sont protégées par le système de la blockchain, mais c'est quand même des monnaies qui appartiennent aux banques centrales. Alors, c'est des monnaies qui sont donc contrôlées par les gouvernements. C'est une nuance qu'il faut apporter. Ça veut dire que leur cours est déterminé, continuera à être déterminé par les banques centrales des États concernés. Donc, un système de paiement numérique et de règlement de monnaie numérique et de règlement adossé à la blockchain, c'est ce qui est aujourd'hui en train d'être discuté et mis en place en attendant qu'on approfondisse la question de la monnaie commune. Il ne faut pas le mettre au même plan que la monnaie commune. Encore une fois, la monnaie commune, c'est pas la monnaie numérique de banque centrale, ce qu'on appelle Central Bank Digital Currency. C'est BDC, si vous voulez, l'acronyme anglais. Donc, c'est des monnaies numériques, certes, c'est des monnaies numériques adossées donc à la blockchain. C'est également, le règlement se fait à travers un système de paiement sécurisé, n'est-ce pas ? Adossé lui-même à la blockchain, mais sans plus que ça. Donc, c'est une méthode originale et sans doute, c'est vu comme un moyen de régler les soldes des échanges en monnaie nationale. Aujourd'hui, les Russes vendent aux Indiens en roupies indiennes, accumulent des roupies indiennes dans leurs comptes auprès des banques indiennes. Elles ne peuvent pas utiliser tout le rouble, donc le solde est excédentaire pour la Russie. Parce que si on était dans le système dollar, l'Inde paierait la Russie sans pétrole en dollars. C'est parce que la Russie et l'Inde ne veulent plus passer par le dollar. Donc il faut choisir une monnaie. Choisir la roupie, ça ne règle pas tous les problèmes. Parce que la roupie est quand même contrôlée par l'Inde. Les réserves ou les balances roupies que la Russie détient en Inde vont baisser de valeur s'il prend à l'Inde l'envie de dévaluer. Vous voyez ? Absolument. Ou si l'économie indienne va mal et que la roupie dévalue, eh bien, la Russie en subirait le contre-coup.
Donc, si j'ai bien compris votre analyse, les crypto-monnaies et la blockchain, c'est une bonne idée pour l'instant, mais pour contourner les sanctions et pouvoir faire des paiements et des compensations. Mais ce n'est pas la solution ou la panacée pour la monnaie commune. Donc, le problème reste toujours le même, c'est celui comment trouver un moyen d'intégrer les économies des pays et arriver à une certaine intégration qui permet justement l'établissement de cette monnaie.
Oui, c'est pour ça que, donc, à la High School of Economics, je vais soumettre cette idée. Je ne sais pas ce que les Russes vont en penser, puisque c'est le groupe d'experts qui organise cette table ronde.
Je rappelle que c'est le comité des experts des BRICS, présidé par Madame Victoria Vladimirovna Panova.
Donc moi, je vais soumettre cette idée. Cette idée qu'il vaut mieux passer par le DTS. Et j'expose largement, et je vais exposer largement, pourquoi il ne faut pas avoir peur du DTS. Demain, l'Afrique, peut-être, pourra remplacer le franc CFA par le DTS. Autrement dit, l'expérience des BRICS risque quand même de profiter à l'Afrique.
Absolument.
À faire avancer le débat autour du franc CFA.
Absolument. Bien, on y reviendra de toute façon. Cette idée, c'est très important. Et dans la prochaine question, dans la deuxième partie, excusez-moi. Bien. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire maintenant, Ali Benouari, est-il possible pour les BRICS d'émettre une monnaie qui remplit toutes les fonctions ? Donc, pour passer à votre proposition sur le DTS, donc, ce que vous avez dit, monnaie de compte, monnaie de facturation et de paiement.
Non, monnaie de compte, c'est monnaie de facturation. Donc, monnaie de compte, monnaie de paiement et monnaie de réserve.
Et monnaie de réserve, voilà. Où serait-il plus judicieux d'imaginer une monnaie de compte seulement ?
Oui, clairement.
Commune à mettre au même rang de priorité que l'utilisation des monnaies nationales pour contrer l'influence du dollar ?
Oui, oui. Pour moi, il est exclu qu'un ensemble de pays qui ne soit pas intégré économiquement et même dans une certaine mesure politiquement puisse avoir adopté une monnaie commune. Ça n'est pas, tout simplement pas possible, parce qu'une monnaie obéit à l'intérêt du pays qui l'émet. Et pour qu'un groupe de pays puisse émettre une monnaie commune, il faut que ces pays-là aient atteint un degré d'intégration économique, financier, scientifique, technologique, voire politique, qui partagent les mêmes valeurs, un degré suffisant pour pouvoir envisager de créer une monnaie comme l'euro, par exemple. Je pensais à l'euro. Et même là, il y a beaucoup d'Européens, beaucoup de partis qui ne sont plus d'accord avec l'euro, avec l'idée de rester dans l'euro, dans le système monétaire européen. Regardez par exemple l'Angleterre, le Brexit est sorti. Non, l'Angleterre n'a jamais, la Grande-Bretagne n'a jamais adhéré à l'euro. Et elle est arrivée à la conclusion qu'il faut carrément sortir de l'Union européenne. Mais il y a des pays européens qui n'ont pas adhéré à l'euro.
Il y a les pays scandinaves, par exemple.
Bien sûr. Et donc, ils ne s'en portent pas plus mal, la Pologne. La Pologne, il y a toujours 100 zloty. Posez la question à ces pays-là, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas adopté l'euro, alors qu'ils se sentent si profondément européens ? Donc, vous voyez, si déjà l'Europe a du mal avec l'euro, après, il a créé en 1990, après
22 ans.
Plus 30 ans,
depuis 2002 qu'il a été lancé, ça veut dire 22 ans.
C'est ça, 22, 23 ans. Donc, si l'euro n'a pas réussi à mettre d'accord tout le monde, malgré les avancées considérables de l'Europe en matière d'intégration, imaginez les BRICS. Ce n'est tout simplement... C'est un peu ça que l'axe de mes recherches, c'est déblayer. Déjà, dire ça n'est pas possible. Paiement, réserve... Alors, réserve, c'est spécial. Quand une monnaie est acceptée par tout le monde, sur le plan donc, de la facturation et du paiement, elle devient une monnaie de réserve. Sinon, vous pouvez créer une monnaie de paiement, une monnaie de compte, le dinar algérien ou n'importe quelle monnaie locale, mais elle ne deviendra pas une monnaie de réserve si elle n'est pas convertible et si elle n'inspire pas la confiance voulue auprès du plus grand nombre de pays. Donc, réserve, c'est un peu spécial, mais entre paiement et compte, il faut d'abord, comment dirais-je, le paiement, il faut que les gens acceptent que vous les payez dans cette monnaie. Mmh. Et donc, ce n'est pas évident, évident. Mais une monnaie de compte, vous pouvez... vous facturez, vous dire, voilà, l'étalon de référence, ça peut être de l'or, ça peut être n'importe quoi, mais il faut choisir l'unité de compte qui permet qui soit la plus stable possible déjà. Un des critères, c'est la stabilité. Parce que si vous rentrez dans la... Si vous sortez de la stabilité, vous allez heurter les gens qui ne sont pas d'accord qu'une monnaie soit forte, et d'autres qui ne veulent pas qu'une monnaie soit faible. C'est clair.
Oui,
et
absolument.
Donc, si par contre vous définissez une monnaie par sa stabilité, ça peut être une plateforme que tout le monde acceptera. Et qui soit neutre, et qui soit basée sur des actifs convertibles, c'est-à-dire dont la valeur est fixée par le marché. Ce n'est pas à un État de fixer la valeur de ce qu'il y a dans le panier.
C'est justement par exemple, ça que...
Par exemple, le dinar algérien, comme les monnaies des pays du Maghreb, sont, depuis leur création, depuis les indépendances, basées sur un panier de monnaies, de devises, qui entrent dans leurs échanges. Elles ont des coefficients de pondération, c'est-à-dire leur pourcentage dépend du poids de cette monnaie dans le commerce extérieur, aussi bien à l'importation qu'à l'exportation. C'est un choix que les pays du Maghreb ont fait pour asseoir leur, pour fixer la valeur de leur monnaie, de leur propre monnaie. C'est-à-dire que le dinar est indexé sur un panier de devises occidentales, je dirais. De devises, pas occidentales, mais des devises de pays avec lesquelles elles commercent, mais qui sont toutes convertibles. Mmh. Et sinon, comment voulez-vous chaque jour fixer la valeur de votre monnaie ? Vous fixez tous les jours la valeur de votre monnaie en fonction de la valeur en bourse, la valeur de marché, des monnaies qui sont dans votre panier. Donc, la convertibilité des actifs, que ce soit, qu'ils soient monétaires ou non monétaires, doit être assurée de manière à pouvoir coter cette monnaie indépendamment des pays membres, des pays qui l'adoptent. Donc il y a des critères comme ça, stabilité, indépendance, prix fixé par le marché quotidiennement, indépendamment des pays membres, et surtout éviter que, voilà, la stabilité, j'en ai parlé, et puis il y a peut-être d'autres critères. Les pays, par contre, qui ont choisi d'arrimer leur monnaie à la monnaie d'un autre, par exemple, des pays qui sont en zone sterling, on les appelle la zone sterling. La zone sterling, des pays qui utilisent la livre sterling ou sterling, alors qu'ils ne sont pas membres ni. Ils ne sont pas britanniques, ils ne sont même pas membres du Commonwealth, et ils ont décidé, comme ça, d'accrocher leur monnaie à celle d'un autre, la valeur de leur monnaie à la monnaie. Ou carrément d'adopter la monnaie de l'autre. Voilà. Et il y a des, comme ça, comme il y a la zone dollar, il y a la zone sterling, il y a la zone franc-français, la zone CFA, qui est maintenant rattachée à l'euro et pas au franc français qui n'existe plus. Donc on peut dire que c'est une zone euro.
Euro, oui, absolument.
Le franc CFA est une zone euro, mais gérée par la Banque de France. C'est ça la particularité.
Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, l'ex-ministre algérien du Trésor, Ali Benouari, pour la seconde partie de notre émission. Après une courte pause musicale, à tout de suite.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Suivez Spoutnik Afrique sur son site internet, sur les plateformes de podcast et sur les ondes de votre radio préférée. Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Afrique en marche, zone de contact et marché en main. Politique, économie, défense et diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Spoutnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui l'ex-ministre algérien du Trésor, Ali Benouari, actuellement PDG d'Ecofinance à Genève et président de la fondation Luc Montagnier. Ali Benouari, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de l'entretien. Et ma première question, donc après avoir fait le tour de tous les problèmes qui s'opposent, enfin, ou des embûches qui se dressent sur le chemin de la mise en place d'une monnaie commune des BRICS, maintenant on va essayer de voir s'il n'y a pas un autre moyen d'accélérer d'une conférence à l'École des hautes études économiques à l'invitation de la présidente du Conseil des experts des BRICS pour la Russie, Madame Panova. Alors, ma question, Monsieur Benouari, le DTS depuis la fin des années, depuis la fin des taux de change fixes en 1973, sert de monnaie de compte du FMI et des autres organisations internationales. Donc, il ne peut être détenu par des particuliers ou des entités privées. Les pays membres peuvent échanger entre eux des DTS contre des devises en cas de besoin. Alors, ma question, en attendant donc de pouvoir créer un indice composite qui intégrerait les monnaies des BRICS, la solution serait-elle pour vous peut-être d'indexer celle-ci sur le DTS, qui est la monnaie du FMI, et pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Je vais essayer. Vous aurez noté que, les auditeurs auront noté que le DTS a été créé après l'amendement des taux de change fixe, des taux de change fixe en 1973, consécutivement à la décision des Américains de ne plus convertir le dollar en or en 1971. Ouais. Bien. Donc, à partir du moment où le dollar, le contrat de confiance a été rompu par les Américains, le Fonds monétaire international a décidé de créer, ou la communauté internationale a décidé de créer le DTS. Nous sommes à peu près dans la même situation. À partir du moment où on veut dédollariser, pourquoi ne pas faire comme à l'époque d'aller vers le DTS, en sachant que le DTS a une petite fonction de réserve pour les pays membres, a une petite fonction de paiement, mais c'est surtout une unité de compte cotée tous les jours par le FMI de manière indépendante et assise sur 5 monnaies convertibles, dont le yuan chinois, le yen, la livre sterling, l'euro et le dollar, selon des pourcentages, des coefficients qui assurent à cette monnaie la stabilité, une stabilité remarquable. Donc l'idée de base, c'était celle-là, c'est de dire ne pas reprendre la fonction d'unité de compte assignée au DTS. Pourquoi pas ? Il est connu. Toutes les banques centrales en ont dans leurs réserves. Parce que les quotas des pays, chaque pays a un quota auprès du FMI exprimé en DTS. Et ils payent une partie en monnaie nationale. au FMI. Bon. Et du moment qu'il remplit la fonction d'unité de compte, qu'il est indépendant, émis par une institution indépendante, qui appartient à l'ensemble de la communauté des 191 États membres, où il est convertible, où sa valeur est cotée quotidiennement, il pourrait jouer, et dans la mesure, disais-je, où cette monnaie est stable, pourquoi ne pas l'adopter comme unité de compte? Ça simplifierait beaucoup les choses, ça répondrait aux objectifs qui sont recherchés, autrement dit, ne plus facturer en dollars. Parce qu'il ne faut pas oublier, si on oublie la dédollarisation, on perd son latin. C'est parce qu'on veut sortir du dollar qu'on a été amené à réfléchir à une monnaie commune. Et puis, on n'a pas réfléchi suffisamment aux problèmes conceptuels que pose la monnaie. Donc, moi, je ramène les choses à leur plus simple expression et je dis, il faut une unité de compte, pas forcément
une monnaie
de paiement, une monnaie de compte. Et cette monnaie de compte doit être un indice composite. Et pourquoi donc un indice composite? Posez-moi la question.
Oui.
Parce que si elle était rattachée à un bien quelconque ou à une monnaie quelconque,
cela va donner l'avantage.
Vous dépendriez de la valeur de ce bien et de celui qu'il possède.
Absolument.
Vous n'êtes plus souverain. Ce n'est plus vous qui fixez la valeur de votre monnaie, c'est celui qui possède le bien, la matière première, ou si l'unité de compte est rattachée à la monnaie d'un autre, c'est l'autre qui va décider à votre place. Vous voyez, le raisonnement est très, très simple. Donc, unité de compte, basée sur un indice composite, et qui n'est pas contrôlé, qui est contrôlé par l'ensemble de la communauté internationale. Bon. Il n'y a pas, à mon avis, un instrument qui réponde à tous ces critères. Je disais que tous les pays des BRICS l'utilisent déjà, dans leurs relations avec le FMI. Il est accepté par l'ensemble de la communauté internationale.
Mais il y a quand même une petite question ici, M. Ali Benouari. Certains vous diront, le DTS remplissait ses fonctions, mais qu'avez-vous à dire par rapport au fait que les Américains ont le plus grand pourcentage de contributions au fonds du FMI?
Non, la question, c'est, je la poserai autrement. L'objection pourrait venir du fait que le dollar pèse pour 43,38% dans la valeur du DTS.
Oui.
Mais qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que les autres monnaies pèsent pour plus que 50%. Donc si le dollar monte, il monte contre toutes les monnaies. Et donc ça empêche le DTS de monter dans la même proportion que le dollar. Et si le dollar baisse, ça empêche le DTS de baisser dans la même proportion que le dollar. Parce que le cours du DTS est atténué, la valeur du DTS est atténuée par la composition. Si une monnaie monte, l'autre baisse, et vice-versa. C'est ça qui lui donne la stabilité. Donc les Américains, non, ne contrôlent pas, mais absolument pas, la valeur du DTS. Je réponds donc à l'objection qui pourrait être exprimée par certains. Et puis je vais vous raconter quelque chose qui peut-être convaincra, fera sourire, fera mettre en colère certains. Mais c'est une anecdote que j'aime bien raconter parce que j'étais présent. C'était lors du sommet de l'OPEP du 3 au 5 mars 1975. Ce sommet s'est déroulé à Alger. Je faisais ma thèse sur les arabo-dollars et le système international. Donc ça m'intéressait d'y assister. Et je faisais mon service militaire aussi pour un centre d'études, de documentation. J'avais convaincu mon chef de me donner une équipe pour aller suivre cet événement qui était pour moi d'une portée stratégique éminente. Pensez donc. L'ordre du jour de ce sommet de l'OPEP était tout simplement le changement du libellé du pétrole, du dollar au DTS. Vous vous rendez compte? L'audace qu'avait eue à l'époque le roi Faisal d'Arabie Saoudite, le Shah d'Iran, le président Boumediene, le président Kadhafi, Saddam Hussein.
Est-ce que ce n'est pas ça, justement, qui a présidé à leur tragique?
Je vous vois venir, mais on va y revenir.
Tragique après.
Ils ont eu une audace incroyable. Ils ont décidé, du 3 au 5 mars 1975, si je n'y avais pas été présent, si quelqu'un me l'avait dit, je l'aurais... Parce que figurez-vous que personne n'en a jamais parlé, plus jamais. Je suis, j'allais dire, le seul témoin vivant. Permettez-moi de rire. Mais, alors, qu'est-ce qui s'est passé? En 1973, deux années auparavant, les Américains ont convaincu, c'est ça l'origine de Purple Dollar et de l'hégémonie du dollar. Les Américains, quand ils ont foiré, ils ont rompu le contrat de confiance, ils ont dit, bah, finalement, le dollar, les dollars que vous avez ne sont plus garantis par l'or. C'est devenu une vulgaire monnaie de papier. De peur que cela ne provoque la défiance, que les gens se mettent à vendre du dollar à tour de bras ou à ne plus acheter des dollars pour financer les déficits américains, ils ont été voir les Saoudiens et ils leur ont dit, voilà, le deal. On vous protège, comme d'habitude, et puis vous allez vendre votre pétrole en dollars. Et c'est comme ça que l'OPEP a adopté le dollar pour libeller le prix du pétrole et du gaz. Et que peu à peu, d'autres matières premières sont mises à être cotées en dollars, au point que 90% aujourd'hui des matières premières dans le monde sont cotées en dollars. Et les Saoudiens ont accepté, les pétrodollars sont été créés, le dollar a commencé donc à devenir une machine à recycler, donc le dollar est devenu universellement accepté, parce que pour payer le pétrole, le gaz, plus tard, d'autres matières premières, il faut acheter du dollar. Et à qui vous allez acheter du dollar? Vous allez l'acheter aux Américains.
Aux Américains, absolument.
Et après, ça fait que vous accumulez des balances, et qu'est-ce que vous allez faire avec ces réserves, puisque vous avez une réserve? Vous allez acheter l'actif qui est le plus sûr, c'est-à-dire le bon du trésor américain. Et si ça ne suffit pas, on va vous donner un taux d'intérêt plus élevé pour que vous puissiez toujours rester investi dans les bons du trésor américain, autrement dit, pour que vous puissiez continuer à financer les dépenses militaires américaines, les dépenses de toutes sortes. C'est les 850 milliards de déficit, les 2000 milliards de déficit budgétaire s'explique en partie par le fait que la moitié, c'est des dépenses militaires. Autrement dit, vous, moi, tous ceux qui ont des dollars dans la poche financent l'armée américaine. La CIA et la NSA, leur budget, c'est 50 milliards de dollars, plus que le budget de beaucoup de pays africains. Et avec ça, ils vont payer des gens pour vous espionner, pour vous déstabiliser. Vous vous rendez compte de l'absurdité de la situation. Et voilà pourquoi les Américains ont entrepris les Saoudiens à l'époque. Et l'audace du roi Faisal d'Arabie Saoudite, il l'a payé très cher, puisque trois semaines après être rentré d'Alger, il est rentré le 5 mars, il a été assassiné le 19 ou le 21 mars, par son neveu. Voilà, mais il est mort, il a été assassiné, et puis peu après c'était la révolution, le chat qui a été balayé, les Américains n'ont même pas voulu l'accepter qu'il aille se soigner là-bas. Boumediene qui meurt d'une maladie mystérieuse, et puis le Kadhafi, et puis disons que c'est une coïncidence. Je ne crois pas trop aux coïncidences.
Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées pour...
Il ne faut pas toucher à la monnaie. Hein.
Voilà.
Alors donc, voilà ce que je voulais
beaucoup
dire.
Beaucoup de coïncidences.
Je voulais dire, il faut reprendre le fil. Les Américains ne vont pas m'aimer. Et je dis, ce qu'ils ont réussi à faire, ou plutôt ce que l'OPEP a réussi à échouer à faire sur pression américaine, en mars 1975, les BRICS doivent aujourd'hui le faire.
Ils ont réussi, d'accord.
Aller vers le DTS.
D'accord.
Et là, vous verrez, mais j'espère, moi, c'est une idée qui m'est chère pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. J'ai travaillé, j'ai enseigné et j'ai pratiqué l'échange depuis 50 ans. Toute ma vie a été dans l'échange et les marchés comme théoricien et comme praticien, ce qui est assez rare. J'ai donné des conférences sur l'euro dès sa création, à Londres, à Budapest, un peu partout, où j'exprimais mon scepticisme quant à l'avenir de l'euro. Et donc aujourd'hui, c'est la monnaie des BRICS. Donc j'espère qu'avec tout ce vécu et cette expérience, on prête un peu d'attention à ce que je dis. Je n'ai pas de doute là-dessus, parce que les gens cherchent. Je pense que les BRICS vont prendre les meilleures idées, en tout cas les plus réalistes.
D'accord. Bien. Alors là, maintenant, j'aimerais bien qu'on bifurque un peu sur l'Afrique, parce que les problèmes de l'Afrique nous concernent et au plus haut niveau. Alors, ma première question, parce que c'est des problèmes qui se ressemblent, en fait, et vous l'avez dit d'ailleurs tout au début. Alors, les trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel, qui a été créée il y a quelques mois après les coups d'État au Mali, au Niger et au Burkina Faso, ont décidé dernièrement de quitter la zone du franc CFA, contrôlée par la France, et de créer une monnaie commune à même donc d'assurer leur indépendance et leur développement. Et selon le premier ministre malien, Choguel Maïga, le projet est pratiquement à sa phase finale de la monnaie commune. Alors, qu'en pensez-vous ? Et le système de DTS pourrait-il leur servir de modèle pour leurs échanges internes et extérieurs ?
La question est intéressante et complexe. Tout dépend. Tout dépend du degré de développement économique.
On peut dire que c'est la même situation.
De leur situation financière. Mm-hmm. Est-ce qu'ils ont des réserves ou pas ? Parce que créer une monnaie, il faut pouvoir... défendre sa valeur. Si les choses tournent mal, cette monnaie va dévaluer, et puis en dévaluant, elle vous crée de l'inflation importée, et puis donc ça risque de mal finir. Mais ça ne veut pas dire que ça va pas être bien géré. Tout dépend du rôle qu'on assigne à cette monnaie. Vous dites le DTS, mais si les pays africains choisissent le DTS... Certes, le DTS sera stable, mais ils ne décideront pas de sa valeur. Mmh. Sa valeur sera décidée par des monnaies internationales, un peu comme aujourd'hui le dinar algérien ou le dinar marocain et autres. Mais bon, cela dit, ça peut être...
La logique de ces pays, c'est qu'en fait, le système CFA, à ce jour, oblige les pays membres de cet espace de déposer 50% de leurs devises à la Banque de France, qui, elle, appuie sur le bouton pour imprimer le franc CFA en contrepartie.
Oui, le compte d'opération, c'est le trésor français qui gère.
Voilà, mais après, les devises, ils ne le récupèrent pas, le problème. Et donc, s'ils peuvent garder ça, est-ce que, pour eux...
C'est une garantie, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mm-hmm. Ni les embellir, ni les noircir outre mesure. Le franc CFA donne une certaine stabilité, rassure les partenaires étrangers... Précisément parce qu'il est sous contrôle de la Banque de France, du Trésor français pour être plus précis.
Mais les Africains disent que ça a empêché le développement de
ça a empêché le développement, oui, dans une certaine mesure, parce qu'ils ne peuvent pas ouvrir la vanne, ils ne peuvent pas financer les secteurs qu'ils veulent. C'est pour ça que je dis quel est le rôle que vous assignez. Moi, personnellement, pour aller vite, hein, et puis après on rentre dans les détails, le Burkina, le Mali et le Niger feraient bien de créer leur propre monnaie. Indépendamment du franc CFA, et d'autres pays aussi. Mais il faut qu'ils fassent juste attention. Il faut bien gérer cette opération. C'est pas simple. Mais au moins, ils seront maîtres de leur décision d'investissement, pour financer leurs investissements, etc. Ils ne dépendront pas d'un pays tiers. Mm-hmm. S'il y a un secteur à financer, à développer, qui est prioritaire, par exemple certains minerais ou des investissements stratégiques, ces États pourront décider de le financer sans que quelqu'un d'autre vienne leur dire « Non, ça c'est pas bon, c'est pas rentable ». Mais cela dit, il faut qu'ils puissent garder le contrôle de leurs ressources extérieures, le contrôle de leurs finances. Voilà, c'est pour ça que ça renvoie, ils seront obligés de gérer avec un maximum de rigueur les contraintes qui sont liées à l'émission monétaire. Mm-hmm. Ne pas dépenser à tout va, par exemple. Essayer d'avoir plutôt des budgets équilibrés, même si, bien sûr, il y aura des déséquilibres budgétaires pendant longtemps, mais il faudrait qu'ils soient sous contrôle. Mm-hmm. Faut pas qu'il y ait de dérives. N'est-ce pas ?
Et surtout, il faut que ça soit une monnaie, moi, à mon sens, une monnaie qui va financer surtout le développement, pas les dépenses courantes des États.
C'est ça.
Parce que c'est ça qui fait justement affaiblir une monnaie.
C'est ça.
La monnaie investit dans quelque chose de réel. C'est ça qui peut avoir un effet autobloquant de l'inflation.
C'est ça. Et là, le débat devient intéressant parce que, vous voyez, en posant le problème de cette manière-là, on entre dans la monnaie de paiement. Les États vont créer leur propre monnaie de paiement. Reste à en définir la valeur. Et la valeur, c'est l'unité de compte. Et si, pour revenir à votre question, alors qu'est-ce qui va déterminer sa valeur ? Ça sera, j'espère, un basket, un panier de monnaie. Un panier de monnaie qui soit qui reflète le commerce extérieur, importation, exportation de ces pays-là, Ainsi, ils auront un contrôle indirect. Soit le DTS. DTS, il assure la stabilité. Mais s'ils choisissent le DTS parce qu'il assure la stabilité, c'est comme s'ils avaient choisi un peu, s'ils restaient dépendants de l'euro. Parce qu'actuellement, le franc CFA est accroché à l'euro avec des dévaluations possibles. Mais c'est accroché à l'euro. L'unité de compte, c'est l'euro. Passer de l'unité de compte euro à l'unité de compte DTS, qu'est-ce que ça leur apporte de plus si ce n'est la stabilité du DTS par rapport à l'euro? Vous voyez? Donc, entre l'euro et le DTS, il vaut mieux le DTS comme unité de compte. Parce que les pays qui créent leur propre monnaie vont soit dire c'est convertible, librement convertible, c'est de la folie, soit l'arrimer, l'accrocher à un panier de quelque chose, et en l'occurrence, donc encore une fois, les pays du Maghreb et beaucoup de pays, je crois 30 ou 40 pays, ont choisi de d'indexer leur monnaie sur une unité de compte qui comprend les devises qui rentrent dans leur commerce extérieur, importation et exportation, pour en avoir un peu le contrôle indirect. Donc, ça peut être ça. Ces pays peuvent choisir un peu la méthode, cette méthode-là, ou choisir le DTS, mais je ne vois pas pourquoi. Ce qui est valable pour les BRICS, c'est très différent. Parce que les BRICS ne créent pas leur monnaie de paiement. C'est juste une unité de compte. Et vu la diversité des pays, du Brésil à l'Inde, etc., s'ils devaient discuter justement quel d'un panier de monnaie, d'un panier de quelque chose, d'actifs, et ils vont devoir choisir, se mettre d'accord pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Et vous voyez, ça, c'est un peu aussi ma réflexion. Ils pourront trouver éventuellement quelque chose de mieux que le DTS. C'est pas la panacée.
Pour creuser encore un peu plus cette question du franc CFA, alors, étant donné que le franc CFA est toujours adossé avec une valeur fixe à l'euro, 1 euro coûte 657 francs CFA en général. Donc, ce n'est pas seulement donc, la France qui profite du pillage de l'Afrique, mais toute l'Union européenne, tous les pays de l'Union européenne dans ce cas. Et puis, on a la chute de l'euro dans le sillage de la crise ukrainienne. Contrairement aux affirmations de Jospin à Dakar, après la première dévaluation du franc CFA, elle a non seulement eu des répercussions inflationnistes graves sur les économies de la zone CFA, mais elle a même fait exploser les dettes libellées en dollars de ces pays. Et or, selon une récente étude de la banque française Natixis, l'inflation, justement, en Europe, va rester encore durablement élevée en Europe. Et l'étude distingue donc plusieurs facteurs qui alimentent cette hausse des prix à long terme. La transition énergétique, la tension forte sur le marché du travail, particulièrement dans la zone euro avec le recul de la productivité du travail, des obstacles au commerce mondial et les relocalisations industrielles. Alors, et le pire, dans les trois cas, c'est la transition énergétique, vu sa cherté et tout ce qu'elle influence justement dans la production et la distribution de l'électricité. Et à cause aussi de l'aspect intermittent du solaire et de l'éolien. Bien. Alors, Monsieur Benouari, peut-on dire que la décision, dans ce cas de figure, des pays de l'Alliance des pays du Sahel est tout à fait justifiée de sortir du franc CFA? Étant donné que les pays donc faisant encore partie du franc CFA subiront les affres d'une inflation qu'ils n'ont pas provoquée.
Ça dépend. Encore une fois, le sujet est très complexe et il faut réfléchir à beaucoup d'aspects, pas un seul, pas dans une direction mais dans plusieurs directions. Si l'euro monte par suite d'une hausse des taux d'intérêt de l'euro, bien sûr que ça affecte les pays de la zone CFA. Pourquoi ? Parce qu'ils auront une monnaie, puisque le franc CFA va s'apprécier comme l'euro. Ils vont avoir des difficultés à exporter. Voilà un effet.
Et même à acheter.
À acheter. C'est leur monnaie, en principe. Avec la monnaie qu'ils ont, le franc CFA, ils achètent plus de produits. Mais si l'euro baisse, le franc CFA baisse. Ça peut stimuler les exportations, mais ça renchérit les importations. Les effets peuvent être considérés comme indésirables par un pays donné. Parce que si l'euro baisse alors qu'il a déjà une bonne capacité d'exportation. Il n'a pas besoin de la baisse de l'euro et donc du franc CFA pour exporter. Par contre, ça renchérit ses importations. À l'inverse, un pays qui a une inflation importante peut, plutôt un pays qui a besoin de développer ses exportations, a besoin d'un euro faible. Donc si l'euro baisse, ça l'arrange, mais ça renchérit ses importations. Mais si le pays crée sa propre monnaie, indexée sur des monnaies ou un panier de monnaies étrangères, qu'est-ce que ça change? Ça change juste que le panier est stable. Parce que si un élément qui le compose monte, l'autre baisse. Mm-hmm. C'est des paires de devises. Si une devise monte, l'autre baisse. Quand c'est un panier de devises.
Ça semble nul.
Bien sûr. C'est pour ça que la stabilité pour les paniers de devises est quelque chose qui arrange tout le monde. Parce que vous ne comptez plus à ce moment-là sur la valeur de la monnaie pour faire des efforts de productivité, pour faire de la bonne gestion financière, etc. Elle vous protège et c'est pas avec ça que vous allez compter. Maintenant, vous pouvez toujours dévaluer par rapport au panier. Vous pouvez, parce que c'est contrôlé, c'est des flottements contrôlés. C'est une gestion contrôlée. Les pays qui ont leur monnaie assise sur un panier de devises, comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, etc., L'Égypte, c'est convertible. C'est quand même des pays qui peuvent toujours dévaluer en cas de besoin. D'accord ? Mm-hmm. Donc, pour en revenir au pays du français, au pays de la zone CFA, la question de l'euro ne se pose pas tout à fait dans les termes que vous avez soulevés. S'il y a des troubles, etc., machin, en Europe, il faut voir que... soit l'euro reste stable, soit il monte, ça arrange certains et pas d'autres. S'il baisse, ça arrange certains et pas d'autres. La seule chose qu'on peut dire, c'est que la partie ou la fonction unité de compte n'est pas celle qui gêne le plus les pays de la zone CFA. C'est le fait que ça soit dirigé par la Banque de France et qu'ils ne soient pas maîtres de leurs décisions financières. Donc, ce n'est pas la fonction d'unité de compte qui gêne. Ça peut rester accroché à l'euro, mais ça peut être une monnaie nationale, camerounaise par exemple, émise par le Cameroun ou le Niger ou le machin, mais qui soit accrochée, indexée sur l'euro, c'est tout à fait possible, mais la gestion de la monnaie se fait par le Cameroun, par le pays lui-même. Mm-hmm. Autrement dit, ses devises restent au Cameroun. Mm-hmm. Il en dispose comme il veut. Donc vous voyez, il faut distinguer cette fonction de monnaie de compte de l'émission monétaire. L'émission monétaire indépendante suppose une banque centrale indépendante. Vous émettez autant d'argent que vous voulez pour financer les projets que vous voulez. Il faut juste veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérive. Quant à la fonction d'unité de compte, il faudra bien accrocher sa monnaie à quelque chose. Pourquoi pas le DTS? Parce que vous pouvez toujours dévaluer par le DTS. Le DTS est neutre. Je pense que, tout à l'heure, je vous ai dit, il vaut mieux le DTS que l'euro. Parce que le DTS offre une stabilité que l'euro ne donne pas, n'offre pas. Donc oui, pourquoi pas le DTS. Mais l'alternative, ce n'est pas entre l'euro et le DTS. L'alternative, c'est entre le DTS et un basket, un panier de monnaie qui entre dans la composition du commerce extérieur de ces pays, des pays
considérés. De ces pays-là, d'accord.
Voilà, donc comment le choix se pose.
Ben, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Allez, Benoît, je vous remercie pour tous ces éclairages et toutes ces analyses. J'espère que nous avons réussi à poser la problématique de cette monnaie dans toutes ses facettes et esquisser le début d'une solution, ou du moins un moyen d'accélérer la chose et d'imposer un changement dans le paradigme actuel dominé par le dollar. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour discuter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
À bientôt.
C'était l'ex-ministre algérien du Trésor, M. Ali Benouari, actuellement PDG d'Ecofinance à Genève et président de la Fondation Luc Montagnier. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Suivez Sputnik Afrique sur son site internet sur les plateformes de podcast et sur les ondes de votre radio préférée. Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Afrique en marche, zone de contact et marché en main. Politique, économie, défense et diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.